Chapitre 34. The Book of Life. Le temps de lire est toujours du temps volé. C'est sans doute la raison pour laquelle le métro se trouve être la plus grande bibliothèque du monde. Françoise Sagan. Paris, Hôpital européen Marie Curie. Billy récupérait à une vitesse stupéfiante. On lui avait retiré le respirateur artificiel, les drains et les différentes électrodes avant de la transférer dans le service de convalescence de l'hôpital. Clouseau passait la voir tous les jours, recherchant d'éventuelles complications infectieuses ou la trace d'un épanchement de liquide dans le péricarde. Mais d'après lui, tout était sous contrôle. Quant à moi, j'avais fait de l'hôpital une annexe de mon bureau. De 7h30 à 19h, un casque anti-bruit sur les oreilles, je travaillais sur mon ordinateur à la cafétéria du rez-de-chaussée. À midi, je prenais mes repas au self du personnel, grâce à la propre carte à puce de Clouseau. Quand ce type dormait-il? Mangeait-il? Mystère. Et en tant qu'accompagnant, j'avais obtenu un lit dans la chambre de Billy, ce qui nous permettait de continuer à passer nos soirées ensemble. Je n'avais jamais été aussi amoureux. Je n'avais jamais écrit si facilement. Greenwich Village, 1er octobre, fin d'après-midi. Carol arriva la première devant la petite librairie de Green Street, Kerouac & Co. Bookseller. Elle regarda à travers la vitre et n'en crut pas ses yeux. Le livre était là, ouvert sur un présentoir orné d'une étiquette « exemplaire unique ». Il cohabitait avec un recueil de poésie d'Emily Dickinson et une affiche du film « Les Désaxés », dédicacé par Marilyn Monroe. Elle sentit la présence de Milo derrière elle. « Félicitations pour ta persévérance », dit-il en s'approchant de la devanture. « Cette fois, je pensais vraiment qu'on ne le retrouverait plus. Tu es certain que c'est bien celui-là ? On va le vérifier tout de suite », dit-il en entrant dans la boutique. Le magasin n'allait pas tarder à fermer. Debout devant ses rayonnages, Kenneth Andrews remettait en place les livres qu'il venait de dépoussiérer. Il interrompit son classement pour accueillir ses nouveaux clients. « Que puis-je pour vous, madame, monsieur ?»« Nous souhaiterions examiner l'un de vos ouvrages », demanda Carole en pointant du doigt le roman de Tom. « Ah, une pièce exceptionnelle !» s'exclama le libraire en prenant le livre dans la vitrine et en le manipulant avec la même précaution que s'il avait un incunable entre les mains. Milo examina le roman sous toutes ses coutures, étonné par la manière dont les différents lecteurs se l'étaient approprié. « Alors ?» demanda anxieusement Carole. « C'est bien lui. On vous l'achète !» dit-elle pleine d'enthousiasme. Elle était émue et fière. Grâce à elle, Billy était maintenant hors de danger. « Excellent choix, madame. Je vais vous l'emballer. Par quel moyen désirez-vous régler ? Quel est son prix ?» Fort de son expérience, Kenneth Andrews avait flairé l'engouement de ses clients et n'hésita pas à annoncer un chiffre délirant. « $6,000, madame. »« Quoi ? Vous plaisantez ?» s'étrangla Milo. « C'est un ouvrage unique !» se justifia le libraire. « Non, c'est du vol !» Le vieil homme leur montra la porte. « Dans ce cas, je ne vous retiens pas. »«
C'est ça, allez vous faire f... !»
s'emporta Milo.
« J'y vais de ce pas, cher monsieur, et vous souhaite également une excellente soirée !»
rétorqua Andrews en reposant le roman sur le présentoir.
« Attendez !» demanda Carole en cherchant à calmer le jeu. « Je vais vous payer la somme demandée. »
Elle sortit son portefeuille et tendit sa carte de crédit au libraire.
« C'est très aimable, madame !»
dit-il en prenant le petit rectangle en plastique. Paris, Hôpital européen Marie Curie, le même jour.
« Bon, je peux rentrer à la maison ? J'en ai marre de rester allongé !» râla Billy.
Le professeur Clouseau lui lança un regard sévère.
« Vous avez mal lorsque j'appuie ici ? »
demanda-t-il en palpant son sternum.
« Un peu. »
Le médecin était inquiet. Billy avait de la fièvre. Sa cicatrice était devenue rouge et purulente, avec des berges légèrement désunies. Ce n'était peut-être qu'une infection superficielle, mais il ordonna néanmoins quelques examens. New York.
« Comment ça, refuser ?»
tonna Milo.
Je suis confus,
s'excusa Kenneth Andrews. Mais la carte de paiement de votre femme semble avoir un léger problème.
Je ne suis pas sa femme, corrigea Carol.
Elle se tourna vers Milo.
J'ai dû crever le plafond de ma carte de crédit à cause du prix des billets d'avion, mais j'ai encore de l'argent sur mon compte épargne.
C'est de la folie,
la raisonna Milo.
Tu ne vas pas te ruiner.
Carol ne voulut rien savoir.
Il faut que je contacte ma banque pour effectuer un virement. Mais on est vendredi et ça risque de prendre du temps,
expliqua-t-elle au libraire.
Il n'y a aucun problème. Repassez dès que vous le pourrez.
Ce roman est très important pour nous,
insista-t-elle.
Je vous le garde jusqu'à lundi soir,
promit Andrews en retirant le livre de la vitrine pour le poser sur le comptoir.
Je peux vous faire confiance ?
Vous avez ma parole, madame.
Paris, hôpital européen Marie Curie, lundi 4 octobre.
Aïe !
Cria Billy tandis que l'infirmière appliquait une compresse chaude sur son sternum. Cette fois, la douleur était plus vive. Elle avait eu de la fièvre pendant tout le week-end et le professeur Clouseau l'avait rapatriée du pavillon de convalescence vers le service de cardiologie. À son chevet, le médecin examinait la cicatrice. Elle était tout enflammée et sa plaie continuait à couler. Clouseau craignait une inflammation de l'os et de la moelle osseuse. Une médiastite, complication rare mais redoutable de la chirurgie cardiaque, peut être causée par un staphylocoque doré. Il avait ordonné divers examens, mais aucun ne lui apportait d'aide décisive. La radiographie du thorax montrait la rupture de deux fils d'acier, mais restait difficile à interpréter en raison des hématomes bénins entraînés par l'opération. Peut-être s'inquiétait-il pour rien. Il hésita, puis préféra réaliser lui-même un dernier examen. Il enfonça une fine aiguille dans la cavité située entre les deux poumons de Billy pour ponctionner un peu de liquide médiastinal. À l'œil nu, le prélèvement ressemblait à du pus. Il prescrivit une antibiothérapie par voie veineuse et envoya d'urgence son prélèvement au labo. Greenwich Village, lundi 4 octobre, 9h30. Comme tous les matins lorsqu'il était à New York, le milliardaire Oleg Mordorov s'arrêta dans un petit café de Broome Street pour commander un cappuccino. Son gobelet de carton à la main, il ressortit sur le trottoir et s'engagea dans Green Street. Le soleil d'automne éclairait les immeubles de Manhattan d'une douce lumière. Oleg aimait flâner dans les rues. Ce n'était pas du temps perdu, bien au contraire. C'était des moments de réflexion au cours desquels il avait souvent pris les décisions les plus importantes de sa vie. Il avait un rendez-vous à 11h pour finaliser une importante opération immobilière. Le groupe qu'il dirigeait s'apprêtait à racheter des immeubles et des entrepôts à Williamsburg, Greenpoint et Coney Island pour les transformer en résidences de luxe. Un projet qui n'avait pas forcément l'assentiment des habitants de ces quartiers, mais ça, ce n'était pas son problème. Oleg avait 44 ans, mais sa bouille un peu ronde lui donnait l'air plus jeune. Vêtu d'un jean, d'une veste en velours et d'un sweat à capuche, il n'avait pas l'allure de ce qu'il était, l'une des premières fortunes de Russie. Il n'exhibait pas de signes extérieurs de richesse, ne se déplaçait pas en limousine d'oligarque, et le garde du corps qui veillait sur lui savait garder ses distances et se rendre invisible. À 26 ans, alors qu'il enseignait la philosophie dans la baie d'Avatcha, on lui avait proposé de faire partie de l'équipe municipale de Petropavlovsk-Kamchatski, une ville portuaire à l'est de la Russie. Il s'était beaucoup impliqué dans la vie locale, puis, à la faveur de la perestroïka et des réformes d'Eltsine, il s'était lancé dans le business, s'associant à des hommes d'affaires pas toujours recommandables, mais qui l'avaient fait profiter de la politique de privatisation d'entreprises publiques. À l'origine, il n'avait pas le profil de l'affairiste, et ses adversaires s'étaient toujours laissés abuser par son air rêveur et inoffensif qui masquait une volonté froide et implacable. Aujourd'hui, il avait fait son chemin et s'était débarrassé de ses amitiés encombrantes. Il possédait des propriétés à Londres, New York et Dubaï, un yacht, un jet privé, une équipe professionnelle de basket et une écurie de Formule 1. Oleg s'arrêta devant la vitrine de la petite librairie Kerouac & Co. Son regard fut attiré par l'affiche du film « Les Désaxés », autographié par Marilyn Monroe. Un cadeau pour Marik ? Pourquoi pas ? Il sortait avec Marik van Eden, un top modèle néerlandais de 24 ans qui, depuis 2 ans, faisait la couverture de tous les magazines de mode.
« Bonjour !»
lança-t-il en entrant dans la boutique.
Puis-je vous aider, monsieur ?
L'accueillit Kenneth Andrews.
L'autographe de Marilyn, c'est un vrai ?
Bien entendu, monsieur. Il est fourni avec son certificat d'authenticité. C'est une belle pièce.
Qui vaut ? 3 500 $, monsieur.
D'accord, accepta Oleg sans chercher à marchander.
C'est pour offrir. Vous pouvez me faire un paquet ?
Tout de suite.
Pendant que les libraires roulaient l'affiche avec précaution, Oleg sortit sa carte platinium et la posa sur le comptoir, juste à côté d'un livre à la couverture en cuir bleu. Tom Boyd, la trilogie des anges. C'est l'auteur préféré de Maric ? Il se permit d'ouvrir le roman pour le feuilleter.
Combien pour cet ouvrage ?
Ah, je suis désolé, il n'est pas à vendre.
Oleg sourit. En affaires, il n'était justement intéressé que par les choses qui n'étaient prétendument pas à vendre.
« Combien ? » répéta-t-il.
Son visage rond avait perdu de sa bonhomie. À présent, ses yeux brillaient d'une flamme inquiétante.
« Il est déjà vendu, monsieur, » expliqua calmement Andrews.
« S'il est déjà vendu, qu'est-ce qu'il fait ici ? » ?»«
Le client va venir le chercher. »
« Donc il ne l'a pas encore payé ?»«
Non, mais je lui ai donné ma parole. »
« Et combien coûte votre parole ?»
« Ma parole n'est pas à vendre, »
répondit fermement le libraire. Andrews se sentit tout à coup mal à l'aise. Ce type avait quelque chose de menaçant et de violent. Il encaissa la carte de crédit et tendit au Russe son paquet et son reçu, soulagé de mettre fin à cet échange. Mais Oleg ne l'entendait pas ainsi. Au lieu de s'en aller, il s'installa dans le fauteuil en cuir fauve qui faisait face au comptoir.
« Tout est à vendre, non ?»
« Je ne crois pas, monsieur. »«
Que disait votre Shakespeare, déjà ? »
demanda-t-il en essayant de retrouver une citation.
« L'argent rend beau le laid, jeune le vieux, juste l'injuste, noble l'infâme. »«
C'est une vision très cynique de l'homme. Vous en conviendrez, n'est-ce pas ? » ?»«
Qu'est-ce qui ne peut pas s'acheter ? »
le provoqua Oleg.
« Vous le savez très bien. L'amitié, l'amour, la dignité. »
Oleg balaya l'argument.
L'être humain est faible et corruptible.
Vous m'accorderez qu'il existe des valeurs morales et spirituelles qui échappent à la logique de l'intérêt.
Tout homme a un prix.
Cette fois, Andrews lui montra la porte.
Je vous souhaite une excellente journée.
Mais Oleg ne bougea pas d'un pouce.
Tout homme a un prix, répéta-t-il.
Quel est le vôtre ?
Greenwich Village, 2 heures plus tard.
« C'est quoi cette embrouille ?»
s'insurgea Milo en arrivant devant la boutique. Carol n'en croyait pas ses yeux. Non seulement le rideau de fer était tiré, mais une pancarte rédigée à la hâte prévenait les éventuels clients. Fermeture annuelle avant changement de propriétaire. Elle sentait les larmes qui montaient en elle. Découragée, elle s'assit sur le bord du trottoir et plongea sa tête entre ses mains. Elle venait juste d'encaisser les 6 000 $. Un quart d'heure plus tôt, elle avait tenu elle-même à prévenir Tom de la bonne nouvelle, et voilà que le livre lui passait sous le nez. De rage, Milo secouait le rideau de fer, mais Carol se releva pour essayer de le raisonner.
« Tu peux casser tout ce que tu veux, ça ne changera rien. »
Elle sortit les 6 000 $ en liquide et lui en donna la plus grande partie.
« Écoute, j'arrive au bout de mes congés, mais toi, tu dois aller soutenir Tom à Paris. C'est ce que nous pouvons faire de plus utile à présent. »
Ainsi fut décidé. Encore abattus, ils partagèrent un taxi jusqu'à l'aéroport JFK et chacun repartit vers sa destination. Los Angeles pour Carol et Paris pour Milo.
Newark, fin d'après-midi.
À quelques dizaines de kilomètres de là, dans un autre aéroport new-yorkais, le jet privé du milliardaire Oleg Mordoroff décolla vers l'Europe. Un aller-retour express à Paris pour faire une surprise à Maric. En cette première semaine d'octobre, la jeune mannequin défilait dans la capitale française pour la Fashion Week. Toutes les maisons de couture qui y présentaient leur dernière collection se l'arrachaient. À la fois beauté classique et femme sophistiquée, la jeune Hollandaise brûlait d'un feu qui n'appartenait qu'à elle. Comme si, du haut de leur Olympe, les dieux avaient laissé filer sur la terre une escarbille de leur éternité. Confortablement installée dans son cocon, Oleg feuilleta distraitement le livre de Tom Boyd,
avant de le glisser dans une enveloppe à bulles décorée d'un ruban.
« Un cadeau original, » pensa-t-il. « J'espère que ça lui plaira. »
Il passa le reste du voyage à régler quelques affaires avant de s'accorder 2 heures de sommeil. Paris, hôpital Marie Curie, 5 octobre, 5h30.
« Putain d'infection nosocomiale !»
lâcha crûment Clouzot en pénétrant dans la chambre. Assommé par la fièvre et la fatigue, Billy n'avait plus émergé depuis la veille. « Mauvaise nouvelle ?» devinai-je.
« Très mauvaise. L'examen du liquide a montré la présence de germes. Elle est en train de développer une médiastinite, une infection grave qui nécessite une intervention d'urgence. »
« Vous allez de nouveau l'opérer ?»«
Oui. On la monte au bloc tout de suite. »
Le jet d'Oleg Mordorov se posa à Orly Sud à 6h du matin. Une voiture discrète l'attendait à l'aéroport pour le conduire à l'île Saint-Louis, en plein cœur de Paris. Le véhicule s'arrêta quai de Bourbon, devant un bel hôtel particulier du XVIIe siècle. Son sac de voyage à la main, l'enveloppe contenant le livre sous le bras, Oleg prit l'ascenseur jusqu'au 5e. Le duplex occupait les 2 derniers étages, offrant une belle vue sur la Seine et le pont Marie, une folie qu'il avait offerte à Marik au début de leur relation. Oleg avait son propre jeu de clés. Il pénétra dans l'appartement. Tout était silencieux, plongé dans la lumière blême du petit matin. Jeté sur le canapé en cuir blanc, il reconnut le manteau cintré gris-perle de Marik. Mais à côté, il y avait un blouson de cuir masculin qui n'était pas le sien. Il comprit tout de suite et ne prit pas la peine de monter jusqu'à la chambre. Une fois dans la rue, il essaya de cacher sa honte devant son chauffeur, mais, submergé par la colère, il précipita de toutes ses forces le livre dans le fleuve. Hôpital Marie Curie, 7h30. Guidé par Clouzot, l'interne plaça les patchs de défibrillation sur le corps de Billy, plongé dans les limbes de l'anesthésie. Puis le chirurgien entra en scène, retirant avec soin tous les fils qui corsetaient encore le thorax avant de débrider largement les berges sternales, excisant les tissus nécrosés ou infectés. La plaie suintait de liquide purulent. Clouzot décida une opération à thorax fermé. Pour aspirer les sérosités de la plaie, il disposa 6 petits drains reliés à des flacons dans lesquels régnait une forte dépression. Puis il termina l'intervention en stabilisant solidement le sternum par de nouveaux fils d'acier pour éviter que la cicatrisation ne soit perturbée par les mouvements respiratoires.
Finalement, l'opération s'est plutôt bien passée.
Monsieur, elle fait une hémorragie ! Cria l'interne.
Seulement protégé par une enveloppe à bulles, le roman en cuir bleu flotta un moment sur la Seine avant que l'eau ne commence à s'infiltrer dans l'emballage. Ces dernières semaines, ce livre avait beaucoup voyagé, passant de Malibu à San Francisco, traversant l'Atlantique jusqu'à Rome, continuant son trajet jusqu'en Asie, avant de revenir à Manhattan pour y effectuer un ultime trajet vers la France. À sa manière, il avait transformé la vie de tous ceux qui l'avaient eu entre les mains. Ce roman n'était pas comme les autres. L'histoire qu'il racontait avait germé dans la tête d'un adolescent traumatisé par le drame vécu par son ami d'enfance. Des années plus tard, alors que son auteur était à son tour cerné par ses propres démons, le livre avait propulsé dans le monde réel un de ses personnages pour lui venir en aide. Mais ce matin-là, alors que l'eau du fleuve commençait à délaver les pages de l'ouvrage, la réalité avait apparemment décidé de reprendre ses droits, bien résolu à éradiquer Billy de la surface de la Terre.